donc Anne Fagot-Largeau. Elle est professeure au Collège de France à la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. Pour son parcours, elle a une double formation en médecine et philosophie. Elle a été maître de conférence à l'université de Paris 12. Elle a été médecin spécialiste attachée à l'assistance publique de Paris à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, professeure à l'université de Paris 10 en département de philosophie, professeure à l'université de Paris 1 en histoire et philosophie des sciences. Pour ses spécialités, elle a travaillé sur le raisonnement diagnostique et la logique inductive, statistique et probabilité et les procédures heuristiques. Elle a travaillé sur l'investigation des liens de causalité et les causes de maladies et le rapport entre l'éthique et la connaissance. Pour ses publications, elle est l'auteur de nombreux articles dans les revues spécialisées nationales et internationales, et elle est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Médecine et probabilité »,« L'homme bioéthique »,« Les causes de la mort, histoire naturelle et facteurs de risque », »,« Philosophie des sciences », qu'elle a coécrit avec Handler et Saint-Cernin en collection Folio Essai en 2001, et « Influence de la génétique sur la pensée contemporaine » avec Raman et Torres en 2007. Je lui cède la parole, après quoi nous aurons un débat avec le public. Merci.
Merci madame. Bonjour à tous. Vous m'entendez-vous ? Oui. Vous avez entendu que la génomique n'est pas ma... Ça va pas ? Plus près. Sucez le micro. Ça va comme ça ? Donc, je ne suis pas spécialiste de génomique, je suis le philosophe de service aujourd'hui. Et comme vous, j'ai pris connaissance des avancées de la recherche sur les génomes et je vous invite à réfléchir sur, à partir de cette question, qu'attendre de la connaissance des génomes ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Que pouvons-nous en attendre de positif ? Que pouvons-nous craindre ? Et où devons-nous être vigilants ? Le titre général de la série « Qu'est-ce que la vie ? Où en est-on de la connaissance du génome ?» suggère que la connaissance du génome nous éclaire sur la nature de la vie. Aussi commencerai-je par poser la question « Qu'est-ce que la vie ?» La réponse étant bien sûr que la vie est un vaste bricolage, et que l'histoire du génome illustre parfaitement cette affirmation. C'est à peine une plaisanterie. Voici mon plan en 4 points. Première question, qu'est-ce que la vie ? Est-ce que le progrès de la génomique nous fait comprendre mieux la nature de la vie ? Deuxième point, qu'apporte la génomique à l'individu, personnellement ? Troisième point, quelles sont les stratégies collectives d'accueil de la génomique ? Et quatrième point, que peut-on dire de la créativité scientifique dans ce domaine ? Mais d'abord, à titre introductif, je vous propose de lire cet article 1 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adopté par l'UNESCO en 1997 et adopté ensuite par l'Assemblée des Nations Unies. Ce texte dit « Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité. » Deux mots de commentaire sur cet article 1. L'emploi du mot patrimoine à propos du génome a été critiqué. Il est dans la version française. La version anglaise dit l'héritage. Cet emploi du mot souligne l'hésitation entre deux hypothèses. Le génome est notre bien, notre propriété commune, ou le génome est ce que nous sommes, notre être. D'un côté, le génome est ce que nous avons, de l'autre, le génome est ce que nous sommes. Il est question dans ce premier article de l'unité et de la diversité du genre humain. Même code génétique pour tous les êtres humains, même type de génome pour tous les humains, mais diversité à l'intérieur de ce type, il faudrait, pour bien faire, ajouter à cela qu'on peut étendre l'affirmation à l'ensemble des génomes des vivants, à l'ensemble de la vie, et dire que des vivants terrestres pris deux à deux ont toujours un ancêtre commun dans l'arbre de la vie. Nous sommes, d'une certaine façon, apparentés à tous les animaux, à toutes les plantes. Et on peut dire unité, diversité, on peut jouer sur cette complémentarité pour l'ensemble de la vie. Curieusement, l'article 1 dit aussi que le génome humain sous-tend notre dignité intrinsèque. Il y a souvent, quand on parle du génome, de ces glissements vers un jugement de valeur implicite. Il semble, d'après ce mot employé, la dignité intrinsèque, que le fait d'avoir un génome humain est un honneur, inspire le respect. C'est certainement une affirmation implicite de la supériorité humaine que d'aucuns aujourd'hui contestent. À moins que l'information portée par les jeunes soit subrepticement ici entendue comme quelque chose de particulièrement digne, parce que cette information est une idée ou une essence de l'espèce humaine. Je laisserai là l'incertitude. Nous reviendrons à la fin sur le fait que la déclaration de l'UNESCO est destinée à inciter les peuples vivants sur la Terre à protéger le génome humain. J'aborde maintenant mon premier point. Qu'est-ce que la vie ? Cette question ne peut pas s'entendre de la vie en général. À une époque où les astrophysiciens cherchent la vie ailleurs dans l'univers que sur la Terre, où ils ont repéré des exoplanètes candidates à être habitées, dans une époque où les informaticiens inventent des codes génétiques différents du code génétique de la vie terrestre, on ne peut pas supposer que les formes de vie qui éventuellement se trouveraient sur d'autres planètes que la nôtre seront exactement les mêmes que chez nous. Donc, nous ne chercherons pas à dire que la notion de vie en général est expliquée ou explicitée par la connaissance des génomes. Nous nous contenterons de viser la vie terrestre, la vie sur la planète Terre. Qu'est-ce que la vie sur la planète Terre. L'étude des génomes nous engage à considérer que la vie terrestre est une grande aventure historiquement datable. La vie terrestre, qu'on appelle aussi la biosphère, l'ensemble des êtres vivants sur la surface de la Terre, a une histoire. Cette vie a une unité, la Déclaration universelle le dit, le suggère, elle a une continuité, et ces intuitions sont finalement des intuitions anciennes retrouvées à l'occasion de la recherche actuelle. La question « qu'est-ce que la vie terrestre ?» Aristote y répondait déjà. La vie, c'est le mouvement spontané. Claude Bernard s'est posé la question et répondait « la vie, c'est la mort ». Schrödinger a écrit un petit ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la vie ?» où il l'aborde dans la perspective de la thermodynamique. Donc c'est une vieille question, mais une question à laquelle, jusqu'au XIXe siècle, on donnait des réponses statiques. Alors que depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis la découverte de l'évolution de la vie, on considère la vie dans la perspective de l'évolution. La vie a commencé sur Terre, elle a continué, elle s'est transmise, nous la transmettons. Et, point remarquable, la transmission de la vie d'un être à un autre, quand nous parlons d'êtres complexes comme nous, cette transmission est cellulaire. C'est la cellule germinale qui transmet l'information génétique des parents aux enfants. Je vous ai mis ici des citations, trois citations de Henri Bergson pour montrer que au début du XXe siècle, quand la génomique n'était pas inventée, quand la génétique démarrait tout juste, on pouvait déjà avoir ce type d'intuition, l'intuition de l'unité et de la continuité de la vie, l'intuition de la transmission par un germe et l'intuition de l'absence de plan dans l'évolution de la vie. Bergson s'est efforcé de montrer qu'il n'y a ni plan préexistant, ni but final. Mais ce qu'il appelle une création continue d'imprévisibles nouveautés, une improvisation permanente. Voilà, non pas une définition de la vie, quelques caractéristiques de la vie. Nous allons rapidement rappeler les étapes. Les étapes de la naissance de la génomique, étant médecin, j'ai tendance à prendre des exemples médicaux. C'est au milieu du XXe siècle que, pour la première fois, on a parlé, dans un article publié, d'une maladie moléculaire. On descendait donc, en médecine ou en biologie, on descendait donc au niveau le plus bas, au niveau plancher de la vie, la molécule. Cette maladie moléculaire, c'était la drépanocytose. J'y reviendrai. En 1953, découverte de la structure en double hélice de la molécule d'ADN, Et dès les années 70 commencent les essais de séquençage du génome. Entre la découverte de la structure de l'ADN et le début des séquençages, vous savez qu'il y a les premières tentatives de l'ingénierie génétique, c'est-à-dire la découverte des outils permettant de recombiner les génomes, c'est-à-dire couper un morceau de génome et le transporter sur un autre, couper-coller, ou les techniques qui permettent de multiplier à l'identique une séquence génétique. Je vous ai donné ici une liste qui montre avec quelle rapidité le séquençage a pris son essor. Un chromosome petit d'une levure a été séquencé et publié en 1992, puis à partir de 1995, c'est pratiquement un séquençage complet par an. Un génome de prokaryote en 1995, celui d'un eucaryote en 1996, une région du génome mitochondrial d'un homme de Néandertal en 1998, un chromosome humain, le 22, en 1999, un génome entier de plantes en 2000, le génome de la souris en 2002, le génome humain en 2003. Non, pas le génome humain, mais un génome humain. En effet, ce qui a suivi cette succession de séquençages qui se poursuit pour d'autres espèces, c'est l'exploration de la diversité des génomes à l'intérieur du même type de génome, à l'intérieur de la même espèce. Et cela particulièrement pour l'espèce humaine. Exploration de sa diversité dans un premier projet qui s'est appelé le projet HapMap, qui portait sur une quarantaine de génomes d'habitants de la Terre venant soit d'Asie, soit d'Afrique, soit blancs américains originaires d'Europe. Et on essayait de comparer les types. Puis, actuellement, vous avez ce 1000 Genome Project, 1000 Genome Project, qui envisage la comparaison des génomes de 1000 habitants de la Terre répartis sur la surface de la Terre, et donnant donc une image du génome humain en général. Du moins, on l'espère. Le dernier événement dans cette épopée, c'est la synthèse complète et le clonage d'un génome bactérien annoncé par l'équipe de Venter et Smith en février dernier. Ce qui veut dire que, actuellement, on sait non seulement lire le génome, on sait aussi le produire. Je veux dire produire la séquence génétique. Ça ne veut pas dire qu'on sait créer la vie. Produire une séquence génétique ne crée pas la vie. La preuve est que Venter et Smith ont cloné leur génome. C'est-à-dire qu'ils ont placé la molécule d'ADN qu'ils avaient synthétisée dans le cytoplasme d'une cellule. Et c'est l'ensemble de la cellule qui fonctionne, qui est vivant, non pas le génome tout seul. Donc on ne peut pas encore dire qu'on a créé la vie. Si je me résume, l'apport de la recherche génomique, bien, en comparant les génomes, on a confirmé l'unité de la vie terrestre, la continuité de l'histoire de la vie sur Terre, ainsi que cette allure créatrice, disait Bergson, improvisatrice, bricoleuse, dit François Jacob, de l'évolution. D'autre part, l'exploration des sites pour lesquels il existe des variantes dans le génome humain permet de repérer des anomalies donnant lieu à des maladies. On a par exemple, mais c'était avant le séquençage des génomes, identifié une mutation ponctuelle dans le génome humain qui entraîne la drépanocytose, l'anémie falciforme. C'est une mutation du génome qui entraîne une malfaçon dans l'hémoglobine humaine. On a identifié, dans le cas de la mucoviscidose, on a identifié au moins 1200 mutations différentes qui donnent des états un petit peu différents de la maladie. Et ces mutations concernent la fabrication d'une protéine de membrane. Dans le cas de l'X fragile, ce qui a été repéré, et je pense qu'un de mes collègues vous en parlera dans une semaine ou deux, Jean-Louis Mandel, dans le cas de l'X fragile, ce qui a été repéré, c'est une répétition dans le génome, une répétition, une sorte de bégaiement du génome. Et le nombre de répétitions n'est pas du tout indifférent. Avec quelques répétitions, il n'y a aucun effet dans le phénotype. Avec une trentaine de répétitions, il commence à y avoir... Et il faut 60 ou 80 répétitions pour qu'on commence à voir apparaître dans la lignée, car cela se transmet des parents aux enfants et aux enfants des enfants. Il faut un grand nombre de répétitions pour que tout d'un coup il apparaisse un retard mental. Enfin, l'ingénierie génétique permet aujourd'hui d'envisager ou de pratiquer des interventions sur le génome. Voilà la contribution. Et en faisant, on apprend ce que c'est que la vie. En manipulant la vie, on l'apprend. Et voilà pour mon premier point. Je pose maintenant ma seconde question. Quel est l'intérêt de ces connaissances acquises sur le génome ou sur les génomes pour l'individu? Transportez-vous sur Internet et sur Google, faites 23andMe ou bien DecodeMe, facile à comprendre, décodez-moi, DecodeMe. Ou bien, si vous êtes plus sérieux, vous faites Navigenics. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez obtenir votre profil génétique pour la somme de à peu près 1000 euros en ce qui concerne les deux premiers. Le troisième est plus cher, c'est 2500... Non, c'est pas des euros, c'est des dollars américains, pardon. Donc, le premier site est un site assez accrocheur. Il se trouve en Californie, dans la Silicon Valley. Il est apparenté à Google. Et quand vous entrez sur ce site, vous voyez tout de suite le style réclame. Pour seulement 999 dollars, nous vous faisons l'analyse de votre ADN. Envoyez-nous seulement un petit échantillon de salive. Et vous connaîtrez vos risques d'avoir le diabète, la maladie d'Alzheimer, le cancer, etc., etc. Vous pourrez même nous demander, avec deux échantillons de salive, si celui-là est bien votre frère ou pas votre vrai frère, etc. Analyse génétique. Le second site, qui est un site islandais, j'ai oublié de dire que Google a investi dans le premier site, et donc le groupe Google est lié à ce site-là. Le second site est particulier en ce que l'Islande, qui est une île, l'Islande tout entière, ou plus exactement sa population, la population islandaise, est sous surveillance génétique. C'est-à-dire que les habitants de l'Islande ont accepté d'être surveillés génétiquement. Le site de Reykjavik est un site sur lequel vous êtes accueilli par un médecin en blouse blanche qui vous inspire confiance et qui vous dit que si vous venez chercher votre information chez lui, ça vous aidera à rester en bonne santé. Le troisième site, le Redwood Shores, est un site plus sérieux, plus cher, qui promet, outre la révélation de votre profil génétique, ou du moins d'une petite partie de votre profil génétique, qui promet des explications et un suivi génétique. Donc, le service fourni par ces sites, je n'ai pas essayé, je n'ai pas voulu dépenser mes 1 000 $, donc je ne sais pas ce qui se passe quand on va plus loin, mais ils annoncent qu'on a ça dans les 15 jours. Voilà. Le service rendu, c'est le calcul du risque génétique pour une 20aine de maladies ou de traits, des comparaisons génétiques possibles et un conseil génétique éventuel. Si vous êtes plus sérieux ou savant, vous pouvez vous tenir au courant des découvertes relatives au SNP, c'est-à-dire aux variations d'un seul nucléotide sur le génome, des toutes petites variations ponctuelles, sur le site SNPedia. Qui est un site de Bethesda. Ces sites sont tous à l'étranger. Est-ce qu'on fait ça en France? Est-ce qu'en France, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous fasse votre profil génétique? En fait, je n'ai pas de réponse complète, mais je sais que l'INSERM suit depuis des années une cohorte de femmes dans l'idée de trouver d'éventuels liens entre les habitudes de vie et le fait de déclencher un cancer d'une sorte ou d'une autre, en particulier pour les femmes, le cancer du sein. Or, cette cohorte, qui s'appelle E3N, ce cohorte qui est suivi, alors les femmes remplissent un questionnaire régulièrement, et puis on établit à partir du questionnaire la relation éventuelle entre les habitudes de vie et les cancers. Mais, à un moment donné, les personnes appartenant à cette cohorte ont été contactées pour savoir si elles donneraient volontairement un échantillon de leur sang. Donc, un échantillon biologique est conservé des femmes de cette cohorte, pas toutes, un certain nombre. Ce qui permettrait d'établir des relations, éventuellement, entre le génome et le cancer. Donc on a le matériau là, en puissance. Même chose dans une étude européenne à laquelle la France participe et qui est liée à la précédente, qui est une étude qui vise principalement de trouver les rapports entre les cancers et la nutrition. Est-ce qu'on attrape des cancers en mangeant certaines choses? Avec tel type de régime ou pas? Et là encore, si on dispose d'échantillons biologiques des personnes qui participent à cette étude, qui est une très grande étude européenne, on peut envisager qu'un jour on trouve des liens entre des anomalies génétiques ou des particularités génétiques et des faits de santé ou de cancer. En ce qui concerne les sites dont j'ai parlé, là je consulte le plus sérieux. Voici un exemple de résultat. Cette femme a envoyé un échantillon de salive et on lui répond: vous avez un risque de maladie d'Alzheimer bien plus faible que la moyenne de la population. Donc soyez tranquille de ce côté-là. On dirait 8%, c'est pas rien. Par contre, vous avez un risque de cancer du sein un peu plus élevé que la moyenne. Et qu'est-ce que vous allez en tirer de cette information? On peut aussi vous dire que vous avez un risque plus élevé ou moins élevé de crise cardiaque, d'appétence pour une drogue, etc. Qu'en tirez-vous? Les promoteurs de ces sites cherchent probablement, en particulier celui de Californie, un retour sur investissement. La recherche génétique coûte très cher et il est utile de la valoriser et d'en tirer un certain profit. Il est possible aussi que ces personnes qui lancent ces sites essayent de recruter, à travers des personnes intéressées par ce qu'ils font, de recruter des personnes qui accepteraient d'entrer dans une cohorte et de participer à des recherches sur les liens entre des particularités génétiques et des maladies. Quoi d'autre? Suivant l'adage « un homme averti en vaut deux », on peut penser que si on vous dit que vous avez un risque de diabète de la maturité, vous ferez attention particulièrement à votre régime alimentaire et vous essaierez de retarder le moment où ça se déclare. Ce qui, donc, incite à une éthique de la responsabilité. Pour le moment, l'avantage le plus clair qui soit tiré de la recherche génétique et de la possibilité d'avoir le profil génétique d'une personne, c'est l'amélioration thérapeutique dans deux domaines. Dans le domaine des maladies infectieuses, on peut aujourd'hui diagnostiquer l'agent infectieux très rapidement. Et ça peut sauver la vie du malade par les techniques de la génétique. D'autre part, dans certains cancers, comme dans le cancer colorectal, j'ai donné une référence là, dans certains cancers, le fait de repérer les particularités génétiques de la personne peut permettre de prédire quelle forme de traitement est la meilleure. Il peut permettre d'adapter à la réceptivité de la personne le traitement. Cela parce que on a établi un lien entre certaines caractéristiques génétiques et la réponse aux médicaments. On dit que les caractéristiques génétiques dont il s'agit sont prédictives de la réponse aux médicaments. Quant à la correction des gènes qui vous font risquer une maladie, on n'en parle pas encore, les essais de thérapie génique qui ont été faits avec enthousiasme dans les années 90 ont abouti souvent à des désastres. Et actuellement, on parle davantage de thérapie cellulaire. Je dis, nous pouvons trouver des avantages à ce que notre profil génétique serve à diagnostiquer quelque chose, prédire quelque chose qui concerne notre santé. Mais beaucoup d'inconvénients sont à craindre. Il y eut, dans les années 1990, un grand débat international sur ce qu'on appelait alors la généticisation de la médecine et de la culture. Ce débat sur la généticisation a été lancé par une sociologue en 1992 et il a été repris de façon tumultueuse dans deux journaux qui sont le journal américain Journal of Medicine and Philosophy et sa contrepartie européenne, médecine, santé et philosophie. Le débat, je le dis tout de suite, a été désamorcé parce qu'après une période de tout génétique, et dans les années 90, on était encore dans le tout génétique, après une période de tout génétique où on s'imaginait qu'on était programmé par son génome, c'est une idée qui a été développée par François Jacob dans La logique du vivant, par exemple, le programme génétique. Vous avez un programme inscrit en vous et vous le déroulez dans votre vie. Donc, après une période d'enthousiasme pour la programmation génétique, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du génotype au phénotype, il y a une très grande distance. Les événements sont nombreux, interviennent de très nombreux facteurs. Épigenèse, facteur de la vie aussi. La connaissance d'un gène ne permet donc que très rarement de prédire ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Donc on en est sorti par l'avance de la recherche génétique. Néanmoins, ce débat virulent a remué beaucoup d'idées. Et on peut très rapidement résumer les arguments contre la recherche génétique et la recherche par une personne donnée de son génome. Les tenants de la généticisation disaient ceci. On est entré dans l'ère du génétiquement correct, qui nous pousse vers la discrimination et donc l'intolérance. Demain, votre assureur va vous demander votre profil génétique. Votre employeur va vous le demander. La police va vous le demander. Et votre assureur, repérant des prédispositions à certaines maladies, va vous monter la prime d'assurance. Et votre employeur, distinguant dans votre profil génétique des choses qu'il juge incompatibles avec le travail que vous faites, va vous mettre dehors. Il y a une petite histoire à ce sujet. Dans ces années-là, dont je parle, des années 90, il est paru dans le journal des médecins américains, le JAMA, un article qui rapportait des observations sur une forme de démence qui atteint les boxeurs en fin de carrière. Ça s'appelle la démence pugilistique, la démence du boxeur. Et l'article disait qu'il existe une prédisposition génétique à cette démence et que désormais on devrait interdire à ceux qui ont cette prédisposition de pratiquer la boxe. Ah, si on s'engage dans cette voie, on va orienter les gens en fonction de leur génome. Alors, ceux qui sont partisans, au contraire, du profil génétique, diront que le jeune boxeur peut, lui, tirer parti de l'information qu'il a, un facteur qui prédispose à la démence des boxeurs, et le jeune boxeur peut décider d'arrêter la boxe. C'est une autre façon de le prendre, la façon optimiste. En réponse aux reproches, il y avait donc un certain nombre d'arguments, dont un argument qui ressemble à l'argument de Canguilhem, mais voyons, diversité n'est pas maladie, ou maladie n'est pas diversité. On fait des reproches de discrimination à des personnes qui discriminent pour des raisons futiles, pour des raisons pour lesquelles on ne doit pas discriminer, comme la couleur de la peau. Mais essayer de placer dans un emploi quelqu'un qui n'a pas les aptitudes pour exercer cet emploi, c'est peut-être une forme légitime de discrimination. C'est surtout dans le domaine de la procréation que se cristallise la difficulté. Si vous savez que vous êtes porteur, si vous avez votre profil génétique et que vous savez que vous êtes porteur de gènes qui transmettraient à vos enfants une maladie, vous avez avantage à connaître votre profil génétique pour éviter de faire des bêtises dans la procréation. Voilà comment s'est terminée l'épopée. Voilà. Et j'en viens au tri génétique. Toutes les sociétés, c'est un problème général, ça, et très délicat. Toutes les sociétés humaines ont eu des stratégies pour ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui le newborn screening, le tri des nouveau-nés. Si vous avez fait du grec ou de l'histoire grecque, vous avez appris qu'à Sparte, dans l'Antiquité, quand un nouveau-né était jugé mal formé, on le laissait mourir. Vous savez qu'en Inde, actuellement, il y a plus d'interruptions de grossesse pour des filles que pour des garçons. C'est un tri qui s'opère. La Chine avait la même politique parce que la Chine demande aux couples de n'avoir qu'un seul enfant et que les Chinois préféraient un enfant mâle. Mais la Chine est en train de redécouvrir la préférence pour l'enfant-fille. Donc il y a dans toutes les sociétés des politiques de reproduction, des stratégies. Et donner la croissance démographique extraordinaire de l'espèce humaine durant le XXe siècle, ces stratégies ne feront que s'étendre ou se préciser. Je vais prendre trois exemples qui montrent comment les problèmes peuvent se poser à des niveaux différents. Mon premier exemple est celui du dépistage de la bêta-thalassémie à Chypre au début des années 1980. Donc c'était avant le séquençage, mais à une époque où on commençait à savoir bien les notions et les notions de base concernant le génome. Chypre est une île de la Méditerranée sur laquelle la prévalence d'une maladie du sang due à une hémoglobine anormale était très élevée, 15%. Cette maladie s'appelle la thalassémie, la bêta-thalassémie. C'est une maladie à transmission autosomale récessive, c'est-à-dire que les hétérozygotes ne sont pas malades. Ils ont un bon gène et un gène avec la tare. Les hétérozygotes ne sont pas malades, mais les homozygotes, ceux qui ont les deux gènes malades, sont malades. Malades très gravement, et leur durée de vie est 10-20 ans, et c'est une vie pénible, douloureuse, avec des transfusions de sang, etc. En 1980, toutes les institutions et le peuple de Chypre se sont ligués, toutes les autorités civiles et religieuses, les administratifs, les scolaires, etc., tout le monde s'est ligué pour une action collective qui s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, on a proposé le dépistage des hétérozygotes, c'est-à-dire des personnes qui, sans être malades, avaient un gène malade. Et on a demandé le résultat du dépistage à l'examen prénuptial. On l'a dit aux gens qu'ils ne pourraient plus se marier sans connaître leur état à ce sujet, sans savoir qu'ils étaient hétérozygotes ou pas du tout porteurs. Dans un second temps, on a offert aux couples hétérozygotes qui avaient une chance sur quatre de, à chaque fois qu'ils faisaient un enfant, de faire un enfant malade, homozygote. On a proposé aux couples hétérozygotes un diagnostic prénatal et la possibilité d'interrompre la grossesse dans ce cas, si le test était positif. À partir de 1982, il n'y a plus eu de naissance d'homozygote à Chypre. Notez bien que pour autant, le gène existe toujours dans la population. Le gène incriminé n'est pas éradiqué puisqu'il reste des hétérozygotes. Et chaque génération doit réapprendre le test diagnostique et la procréation responsable. Donc c'est une éducation qui se fera de génération en génération sans éradication du gène. Deuxième situation où ce qui est visé est l'éradication du gène. Ce sont des politiques de santé, ça. Dans le cas de la maladie de Huntington, jusqu'à il y a 10-20 ans, on ne connaissait pas l'origine génétique. Le gène a été identifié, mais la maladie était identifiée et on savait qu'elle se transmettait dans les familles. Et les associations de familles ont joué un rôle éminent pour soutenir le diagnostic et la recherche génétique et la révélation du diagnostic. La maladie de Huntington est une maladie à transmission dominante et à pénétrance entière, ce qui veut dire que tous les porteurs du gène responsable de la maladie tombe malade. Mais il tombe malade plus ou moins tôt. On ne peut pas prédire s'ils vont tomber. Habituellement, c'est vers 40 ans. Mais ça peut être beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard dans la vie. C'est une maladie très grave et mortelle. En quelques années, c'est une chorée. La personne se met à faire des mouvements incontrôlés. Et puis son caractère s'altère. Et finalement, la personne devient grabataire et meurt. Une personne qui porte le gène de la maladie de Huntington transmettra ce gène une fois sur deux à son enfant. Pour chaque enfant, il y a une chance sur deux qu'il soit porteur de la maladie. Les familles atteintes, qui se savaient atteintes, en étaient venues à ne plus se reproduire, à ne plus vouloir procréer, à avoir peur de faire des enfants malades. La possibilité d'avoir un diagnostic préimplantatoire, je crois que c'est préimplantatoire ici, a libéré les familles à la condition traumatisante que les futurs parents acceptent de connaître leur statut vis-à-vis de la maladie, c'est-à-dire acceptent de savoir s'ils sont porteurs. Et savoir s'ils sont porteurs, ça veut dire savoir qu'ils mourront de cette maladie tôt ou tard. Un accompagnement psychologique a été prévu, qui a été négocié avec les associations de famille. Et actuellement, la ligne admise dans cette direction, c'est qu'il faut éradiquer le gène. Si c'est possible. Troisième situation, nous sommes dans le cadre du diagnostic prénatal et de la procréation médicalement assistée. Un couple vient trouver les médecins du service d'aide à la procréation. C'est un couple de personnes sourdes. Et ces personnes demandent aux médecins de bien vouloir leur faire une fécondation in vitro parce qu'ils veulent un enfant sourd et ils veulent être sûrs que l'enfant sera sourd. L'idée est que la surdité n'est pas une maladie, que c'est une différence et que la surdité, c'est comme le fait de parler anglais quand on est en Chine. Si à l'hôpital, il y avait des consultations dans la langue des sourds, dans la langue des signes, les sourds vivraient très bien. Si à la télévision, on doublait tout dans la langue des sourds, les sourds vivraient très bien. Les sourds sont normaux. Mais la société n'est pas adaptée à leurs besoins. Néanmoins, en famille, vivre entre sourds est plus agréable et ses parents demandent qu'on leur fasse un enfant. Il s'agit de surdité congénitale. Ce qui veut dire qu'il y a des gènes de la surdité congénitale. Et il est arrivé qu'on accède à la demande de parents qui demandaient un enfant sourd. C'est un choix positif pour eux. Voilà actuellement ce qu'on fait, ce qu'on pratique en manière de trigénétique. Par contre, pour les prédispositions dont je parlais tout à l'heure et qu'on vous donnera dans votre profil génétique, prédisposition au diabète ou à l'hypertension artérielle ou à la crise cardiaque ou au cancer du sein. Il n'est pas question de tri génétique. On ne va pas éliminer toute personne qui a une prédisposition à un cancer quelconque. Ça nous éliminerait tous. Que faire alors de nos vulnérabilités génétiques ? En psychiatrie, actuellement, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque de maladies psychiatriques ou d'éléments génétiques de vulnérabilité à des maladies psychiatriques, en particulier des éléments de vulnérabilité à l'autisme infantile. Que faire de l'information ? D'une part, l'idée simple que l'autisme infantile peut avoir une origine génétique, au moins en partie, a déculpabilisé les familles. Et on peut considérer que c'est un bienfait de la génétique. D'autre part, un diagnostic plus précoce lié à une détection des marqueurs génétiques, marqueurs ou facteurs, permet une meilleure prise en charge. Et on insiste maintenant sur l'importance de détecter l'autisme très tôt pour mettre en route une prise en charge. Je franchis une étape. Je passe maintenant à ce qu'on appelle l'amélioration génétique, en anglais genetic enhancement, autour de quoi beaucoup de discussions ont cours à l'heure actuelle. Et je vous ai découpé deux petits textes extraits de deux articles en langue anglaise. L'un de ces textes dit, c'est un philosophe qui dit ça, pour la première fois dans l'histoire, il y a maintenant une perspective réaliste d'améliorer ou de changer la nature humaine. Naturellement, on n'y est pas encore. C'est une perspective, c'est pas encore une réalité. Le philosophe est un optimiste. Ou alors il se cache la tête dans la terre. Veuillez Radman, que vous pourrez entendre dans cette série d'ici une semaine ou deux, Veuillez Radman vous diront, je pense, ce qu'ils ont dit à l'Académie royale d'Angleterre, à savoir, nous avons appris que nous sommes les esclaves de notre génome qui nous vient de nos parents, que nous n'avons pas choisi, et nos parents eux-mêmes, leur génome venait de leurs parents et ils ne l'ont pas choisi. Nous avons subi nos génomes, mais donné ce que nous savons à présent, nous pourrions nous rebeller contre l'esclavage du génome. Que signifient ces phrases ? La prise de conscience que nous allons pouvoir faire mieux que la nature, nous nous émancipons, nous allons remodeler le génome humain, car la nature fait des erreurs, la nature fait des bêtises, ce qu'elle a bricolé pour notre génome est très loin de la perfection. C'est un principe bien ambitieux. Et autour de cette idée, on voit se profiler à l'horizon deux thèmes. D'une part, le thème du minimum génétique décent, decent genetic minimum. À savoir, il y aurait, quand on va faire un enfant, il y aurait une obligation de lui assurer un minimum génétique décent. Ce serait une obligation morale de ne pas se risquer à faire des enfants qui n'auraient pas ce minimum génétique. L'autre idée qui vient ici, c'est l'histoire, l'image du supermarché génétique. Un couple qui veut faire un enfant et qui voudrait le faire bien, avec un peu plus que le minimum génétique de base, pourrait aller dans un supermarché de la génétique et trouver des fragments de gènes qui assurent une certaine qualité ou d'autres, bon, une qualité ou une autre à l'enfant qu'ils vont faire. Et il demanderait qu'on ajoute ces morceaux de génome au génome de l'enfant qu'il désire. Il y a là transgression d'une limite qui est aussi une limite du côté de la morale, mais qui est peut-être une incapacité du côté de la morale. Elle concerne le principe de justice. Les théories de la justice que nous avons à l'heure actuelle tiennent pour acquis que ce qui est hérité par quelqu'un de la loterie de la nature, la loterie génétique, la sélection naturelle, ce qui est hérité est un donné, que ça n'est ni juste ni injuste, que c'est comme ça. Les gens naissent comme ils sont, ils sont créés et ils naissent comme ils sont. Et au niveau culturel, on pose que à partir de la naissance, tous les êtres humains sont égaux. Biologiquement, ce n'est pas vrai. Il y a de grandes inégalités biologiques à la naissance. Mais on pose culturellement, conventionnellement, que tous les êtres humains sont égaux et on a des politiques de non-discrimination, d'égal accès à l'éducation, d'égal accès aux métiers, d'égal accès aux services de santé, des politiques qui visent à toujours corriger les tendances à l'inégalité sociale. Or, si on franchit la limite dont je parlais, la justice consisterait non seulement à réparer les inégalités sociales dont nous sommes responsables, mais la justice consisterait à réparer les injustices de la nature, ce qui peut aller loin. Je ne peux pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais vous trouveriez éventuellement dans ce numéro de journal qui est indiqué ici toute une discussion à plusieurs personnes sur l'amélioration génétique. Ce dont je viens de parler, tri génétique, amélioration génétique, porte un nom, l'eugénisme. Le rêve d'améliorer l'espèce humaine en faisant mieux que la nature, en corrigeant la nature, en perfectionnant la nature, ça s'appelle de l'eugénisme. Et au nom de cette idéologie, on a commis des horreurs. Des horreurs qui sont exposé par exemple dans le livre de Kevles, que je mentionne ici, au nom de l'eugénisme. Est-ce que du fait que nous, l'eugénisme a sévi au tournant du 19e et du 20e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, et les pires horreurs se sont trouvées pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que maintenant que nous connaissons mieux le génome humain, maintenant que nos connaissances scientifiques sont mieux élaborées, plus précises, plus raisonnables, est-ce que nous pouvons pratiquer un eugénisme moralement acceptable ? La connaissance ne suffit pas. Outre la connaissance, il faut de la sagesse. Mais l'idée même d'une procréation responsable n'est pas à rejeter. Qui voudrait, en effet, faire intentionnellement des enfants génétiquement handicapés ? Et puisque nous avons parlé de la possibilité d'introduire dans le génome des morceaux de gènes nouveaux, si un jour la recherche, les chercheurs découvraient avec certitude qu'il y a des éléments du génome qui sont protecteurs contre le sida, contre la tuberculose ou contre certaines formes de cancer. Vous savez qu'il y a des familles où on sait que les gens font des cancers à 30 ans. Dans d'autres familles, c'est les cancers à 60 ans et dans d'autres familles, les cancers à 90 ans. Si on pouvait améliorer le risque pour les gens qui font des cancers trop jeunes, simplement en leur donnant un facteur génétique. C'est ce dont Veil et Radman, je pense, parleront. Et le résultat, si on le faisait, serait de faire des enfants génétiquement modifiés. Le sujet est très sensible. Nous avons horreur des organismes génétiquement modifiés dans nos assiettes ou dans nos champs. Mais nous hésiterions en ce qui concerne les enfants. Si c'était pour leur conférer un avantage du point de vue de la qualité de leur vie. Je vous laisse là-dessus et j'aborde très rapidement mon dernier point qui est vers quoi allons-nous ? Vers quoi allons-nous ? Où nous entraîne la créativité des chercheurs ? Je commence par une petite histoire. En novembre 2006, l'autorité britannique de régulation de la procréation, qui est un peu l'équivalent, nous les avons copiés, de l'agence de biomédecine en France, l'autorité britannique a reçu deux projets de recherche assez singuliers. Ces projets de recherche étaient des projets qui prévoyaient, pour une recherche génétique en vue de trouver un traitement, je crois, du diabète juvénile. C'était un projet qui impliquait la construction d'embryons, alors faut-il dire humains, la construction pour la recherche d'embryons obtenus par transfert d'un noyau humain dans un ovocyte animal. L'autorité de régulation anglaise a cherché si la loi anglaise dit quelque chose sur les hybrides. La loi anglaise ne dit rien. Ce qui était demandé n'était donc pas interdit par la loi. L'autorité de régulation s'est jugée compétente pour débrouiller la question. Il s'agit de faire un hybride homme-animal. Mais un hybride d'une certaine qualité, puisqu'il aura un noyau humain, donc l'essentiel de son génome humain, et un cytoplasme animal. Les Anglais ont pensé souris ou vache. Les Chinois pratiquent actuellement la cellule de lapine, l'ovocyte de lapine, car cette technique est déjà utilisée. L'autorité britannique s'est demandé ce que les Anglais en penseraient d'une chose pareille, si c'était acceptable par la population britannique. Elle a donc organisé une grande consultation très approfondie qui s'est déroulée en plusieurs temps, où on a expliqué ce que c'est que construire un embryon, mettre le noyau d'une cellule humaine dans une cellule embryonnaire dont on a retiré le noyau par ailleurs, qui est une cellule d'animal, etc. Et alors, je vous tranquillise tout de suite. Le transfert d'un noyau d'une cellule humaine dans un ovocyte est interdit en France, même s'il s'agit d'un ovocyte humain. Ça s'appelle le clonage. C'est interdit par la loi, donc le problème ne se pose pas chez nous. C'est interdit. On peut penser que l'interdiction est tout à fait excessive en ce qui concerne la recherche. Mais c'est interdit. En Angleterre, il n'y a pas d'interdiction. Il y a eu des autorisations de cloner, mais en utilisant des ovocytes humains, des ovocytes de femmes. Ici, on propose d'utiliser l'ovocyte d'un animal. Finalement, la consultation qui a remué toute l'Angleterre l'année dernière à cette époque, au printemps 2007, on en parlait dans les journaux, tout le monde en débattait. Cette consultation a eu le mérite d'informer beaucoup de gens sur la recherche et les possibilités de la recherche génétique et dans le domaine procréatif. Et l'autorité britannique, suite à la consultation, a décidé que cette pratique était acceptable, mais à deux conditions. Elle a posé deux conditions. Elle a fixé deux limites. D'une part, les chercheurs devaient être capables d'expliquer clairement dans quel but ils fabriquaient ces embryons hybrides. Et ce but devait être accepté par ceux qui examinaient le dossier. D'autre part, le hybride ne devait se développer qu'au maximum 14 jours et ne devait jamais être réimplanté dans un utérus humain. Le cybride est donc autorisé dans la recherche en Angleterre. Le mélange de matériel génétique humain et non humain est en réalité, et les Anglais s'en sont rendus compte à l'occasion de cette grande consultation où ils ont consulté toutes sortes d'informations, on s'est rendu compte que la pratique de l'hybridation ou du mélange des génomes est extrêmement commune depuis longtemps. Depuis qu'on connaît des jeunes, on s'est aperçu que ces phénomènes existent spontanément dans la nature, que Dans l'agriculture et l'élevage, il y a une longue tradition d'hybridation. Vous savez sans doute que l'Institut national de la recherche agronomique en France a créé un lapin fluorescent en transférant dans l'embryon de lapin un gène de méduse qui code pour une protéine fluorescente. Le lapin fluorescent est un hybride ou une chimère. La cartographie du génome humain, quand on a séquencé les génomes, on a utilisé des techniques de fusion de cellules humaines et animales. On fait produire l'insuline humaine par des levures qui sont des levures génétiquement transformées pour qu'elles fabriquent la forme humaine de l'insuline. Et la construction de cybrides est attestée depuis plus d'un siècle dans la recherche. Elle a en particulier permis des essais de clonage, donc de résurrection, si on peut dire, d'espèces en voie de disparition. Où va-t-on alors ? Les problèmes que j'ai posés implicitement ne sont pas seulement des problèmes d'éthique. Le souci éthique est un souci d'encadrer la recherche, de normer, de fixer des limites à l'enthousiasme des chercheurs. Mais derrière le souci éthique se profilent des questions plus graves, plus profondes, à savoir vers où cela nous entraîne-t-il ? Notre espèce a été jusqu'ici portée par la sélection naturelle, par la loi naturelle de l'évolution de la vie, et elle est en train d'aborder ce tournant où elle peut avoir une influence sur la manière dont la vie s'oriente, sur la manière dont l'évolution se fait. Ce tournant fait peur, et en même temps, il est excitant. On est donc partagé entre le plaisir qu'on a, ou la fierté, d'interférer avec l'évolution naturelle. Il se développe actuellement une biologie de synthèse pleine d'improvisations très intéressantes, une biologie créatrice. Et d'un autre côté, nous savons que toutes les espèces s'éteignent, en dépit de toutes les collections génétiques qu'on peut en faire. Le livre de Claude Debru que je mentionne ici développe quelque peu le contenu de ce défi. Mais pour l'instant, je termine, je conclue. J'avais, en commençant, commenté le premier article de la Déclaration universelle sur le génome humain de l'UNESCO. L'UNESCO, quelques années avant cette convention, avait promu une convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel. Ce texte mettait sur le même plan le patrimoine culturel de l'humanité. Vous savez que l'UNESCO est célèbre pour la protection des trésors culturels, et le patrimoine naturel, en particulier génétique. Cette convention engage les pays qui la signent à protéger le génome, les génomes, à conserver la diversité génétique, à transmettre le patrimoine après l'avoir soigneusement préservé. Et cela a été encore confirmé par la Convention de Rio de Janeiro des Nations Unies en 1992, où il est question de préserver la biodiversité et la diversité culturelle, c'est-à-dire préserver la diversité biologique et la diversité de la culture. Ce texte laisse rêveur sur le moment. C'est merveilleux de conserver, préserver, prendre soin d'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne le patrimoine biologique ? Le génome humain est dynamique. On vous l'a dit beaucoup dans cette série de conférences. Le génome humain évolue sans cesse. Le protéger ne peut pas signifier le mettre en boîte, le figer, le cacher dans un reposoir. Le génome humain vit dans les peuples humains qui peuplent la Terre. Et il est beaucoup plus abîmé par les guerres, les grandes catastrophes naturelles ou les génocides, qu'il ne l'est pour le moment par les très petites tentatives médicales pour le modifier.